Et le contraire de l'intérêt, c'est ce qui est passionnant. L'intérêt est intéressant, hein, gagner du 4%, c'est intéressant. Par contre, participer à l'aventure de Bitcoin, c'est passionnant.
Le cours du Bitcoin monte et descend. Mais qu'est-ce qui justifie sa valeur? Qu'est-ce que le Bitcoin? Parlons Bitcoin, brisons le mythe, pas pour faire de l'argent, mais pour faire l'argent. Je m'appelle Emmanuel, et depuis 2017, j'ai passé des milliers d'heures à creuser le sujet. C'est parti. Salut et bienvenue dans la deuxième partie de cette enquête sur Bitcoin et religion. Dans l'épisode précédent, nous avons vu avec Jacques Favier les points communs qui existent entre Bitcoin et religion. On a parlé par exemple de textes sacrés et révélés, de fêtes, de credos, de vocabulaire, etc. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser plutôt à la dimension philosophique du Bitcoin. Quel message cette religion semble-t-elle porter ? Quel est son dieu ? Quel est son diable ? On va parler de Prométhée et de veau d'or. On verra également un parallèle très fort entre le déclin des institutions et la souveraineté offerte par Bitcoin. C'est-à-dire que le Bitcoin permet de ne plus être obligé de croire en l'État comme seul agent souverain de sa vie. Il existe des alternatives qui vont, je pense, pousser l'État à de plus en plus devoir justifier ses actions, ce qui est d'après moi une très bonne chose. Bitcoin est libre, non violent et n'applique de la coercition sur personne. Qu'est-ce que c'est Bitcoin ? Dans le fond, je ne sais pas. Cela dit, Jacques avait une très belle phrase qui, je pense, nous rapproche de la vérité. Je cite. Bitcoin est un métal mental dont le pôle magnétique est dans le ciel, que l'on ne touche pas de la main, mais qui est réellement présent dans la pensée d'une communauté dont il mesure la richesse. Bonne écoute.
Si tu veux, pour terminer la première partie, un escroc qui aurait voulu créer une fausse religion, tu vois, c'est ce qu'on disait à l'époque des Lumières quand Voltaire n'osait pas faire une pièce pour traiter Jésus d'escroc, mais il le faisait sur Mahomet et tout le monde comprenait qu'il s'avisait en réalité, disait, il a inventé tous ces chichis religieux, toutes ces simagrées religieuses pour son escroquerie. Donc pour le moment, je crois que je n'ai dit que des choses qui, après tout, ne prouvent pas que Bitcoin est une religion, qui prouvent que l'inventeur a pu, la communauté, ont pu se donner cette apparence familière d'une religion, mais sans être une véritable religion. Alors maintenant, est-ce que Bitcoin est, à mes yeux, une religion ? Alors, spoiler, oui.
ok, merci, au revoir.
quand on sait où va le mec, Moi, a priori, je ne me spoil pas mes séries, mais je sais que l'un de mes fils le fait parce qu'il dit qu'il goûte mieux le film. Pour moi, oui, la première chose à dire, et je ne vais pas forcément me faire entendre bien ou ça risque d'être mal compris, mais je vais dire ce que je pense. Contrairement à ce que répètent tous les Français, et en particulier leurs dirigeants, la religion n'est pas une affaire privée. C'est devenu, pour le coup, un mantra en France, dans lequel se reconnaissent pratiquement le pouvoir et l'opposition, qui est de dire bah, la laïcité, c'est que la politique, c'est du domaine du public, et la foi que vous avez, ou que d'ailleurs vous n'avez pas, c'est du domaine du privé. Et comme ça a le mérite d'être simple, finalement tout le monde a fini par le croire. Or, ça n'est pas vrai. Ça serait vrai d'une religion de type romaine, la religion du dieu lard, dont le prêtre était le père de famille, qui présentait les nouveaux dés au dieu lard, qui était dans un petit coin de la salle à manger, etc. Ça peut être le cas de certaines religions des ancêtres, en Asie par exemple, mais les grandes religions monothéistes telles que nous les connaissons, et qui font quand même l'essentiel du sujet aujourd'hui, n'ont pas dans le cœur des gens vocation à être vécue de façon privée. Les commandements du Christ et ceux du prophète de l'Islam sont très clairs, ce sont des messages qui s'adressent jusqu'aux extrémités de la terre, qu'on est censé partager, qu'on est censé vivre en commun. Ça ne veut pas dire les vivre contre les autres. Dans toutes les religions, il existe des enquiquineurs qui veulent s'en servir pour polluer la vie de tout le monde et d'autres qui pensent que c'est par le témoignage, par un témoignage de bonne conduite, par exemple, qu'ils exerceront une influence sur la communauté. Mais les religions ne sont définies comme étant une affaire privée que par ceux qui n'en ont pas. et en général, non pas tellement parce qu'ils n'en ont pas, que parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est. Voilà, ceci posé, et d'ailleurs, on l'a vu au moment du Covid, quand tu entends un ministre de l'Intérieur français justifier le fait qu'on ferme les églises, non pas par des mesures sanitaires, mais, dit-il, parce qu'après tout, on peut bien prier chez soi, on a envie de lui dire, écoutez, vous êtes ministre d'un État laïque, vous n'êtes pas censé avoir compétence pour nous expliquer comment prier, c'est simplement pas votre métier, et en plus, vous n'y connaissez rien. Donc voilà, c'est vrai que la prière, par exemple, pour les catholiques ou pour les musulmans, il y a une dimension commune. Alors c'est le problème aussi de l'État moderne qui confond toujours État et société, public et commun, etc. Ayant fait cette mise au point sur laquelle je ne veux pas m'attarder, quand je dis que Bitcoin est une religion, c'est naturellement pas une religion qu'on a vocation à vivre chacun dans notre petit coin en bricolant notre petit wallet, mais bien faire connaître Bitcoin, le faire aimer, le faire étendre son influence et quelque part, comme l'aurait dit n'importe quel fondateur de grande religion, conquérir tous les peuples et toute la terre. Bien. Ceci posé, je ferme la parenthèse. Bitcoin intègre, me semble-t-il, une dimension d'amour. Alors, quand je dis ça, je vais là passer pour un prophète, mais l'une des choses étonnantes de la part des critiques de Bitcoin, c'est qu'ils disent, au fond, Bitcoin n'est pas très intéressant parce qu'il peut baisser. Et c'est vrai. Si j'ose dire, on a payé pour voir. Donc, Bitcoin, c'est pas votre intérêt. Bon, les mêmes ministres des Finances, en général, ont des participations dans les sociétés de loto qui te vendent bien à 2 dollars des billets dont l'espérance de gain est de l'ordre de 30 centimes. Là, ils se soucient moins de ton intérêt quand ils te vendent ça. Mais ils ont un discours classique qui est le discours de l'intérêt. Vous n'avez pas intérêt à avoir cette monnaie parce qu'elle n'est pas efficiente, parce qu'elle n'est pas sûre, parce qu'elle n'est pas acceptée partout, parce qu'elle n'est pas une bonne réserve de valeur, etc. C'est un discours qui est fondé sur la notion d'intérêt. Et le contraire de l'intérêt, c'est ce qui est passionnant. L'intérêt est intéressant, hein, gagner du 4%, c'est intéressant. Par contre, participer à l'aventure de Bitcoin, c'est passionnant. Et ce qui est intéressant ne te rend pas heureux. Enfin, sauf si tu es vraiment une buse, normalement, l'augmentation de la rémunération de son compte sur livret, c'est bien, mais enfin, ça t'excite pas, ça te donne pas de joie. Alors que je pense que ce que crie ce To The Moon, qui n'a à proprement parler pas grand sens, c'est de dire qu'on se projette avec bonheur vers autre chose. Au fond, Bitcoin est peut-être une monnaie inutile dans le temps présent, peut-être utile après les royaumes de ce monde, peut-être utile sur Mars. Quelque part, c'est aussi la monnaie de ceux qui cherchent l'immortalité. Il y a cette dimension-là. J'avais fait un papier sur mon blog pour rappeler que cette recherche d'immortalité, que je trouve a priori, moi perso, plutôt suspecte, est classiquement associée au moment de fermentation que je te décrivais. Par exemple, même le papier monnaie, il est né à l'époque de la Révolution, à un moment où on voit des aventuriers comme Saint-Germain, Cagliostro, etc., se dire immortel. Enfin, c'est un thème qui montre toujours qu'une société est en fermentation. C'est comme une odeur de méthane. Quand on commence à parler d'immortalité, c'est que ça fermente. Donc voilà, Bitcoin, c'est la monnaie dans une société de fermentation de gens qui se disent « ça nous sera peut-être pas utile dans ce monde-ci, mais ça nous sera utile dans l'autre monde. Le monde d'après, le monde d'ailleurs, le monde d'au-dessus. » Et ce « to the moon », qui après tout veut dire qu'on s'échappe du champ de gravitation, qu'on rentre dans un autre univers, est, je crois, beaucoup plus significatif qu'on ne peut le penser au départ en voyant simplement une sorte de cri un peu scout. Il y a autre chose, et là je vais faire une comparaison spécifiquement chrétienne. Saint Paul dit que le Christ, Dieu crucifié, est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Et c'est l'une des choses les plus profondes qui ait été dites dans l'Antiquité. Parce qu'effectivement, avoir comme Dieu, même comme Messie d'Israël, mais à plus forte raison comme Fils de Dieu, quelqu'un qui subit le châtiment le plus infamant, le douloureux, répugnant, etc., réservé aux esclaves, pour les juifs pieux qui attendent autre chose et pour qui Dieu est infiniment sacré, dire que c'est ça son fils, c'est un scandale. Et pour les Grecs, déjà la simple idée que ça vienne d'un juif, c'est déjà une folie, mais dire que c'est le charpentier de Nazareth qui est le logos annoncé par les platoniciens, c'est une pure folie. Et donc, Saint Paul pose bien le problème. Scandale pour les juifs, folie pour les Grecs. En fait, ça veut dire qu'il n'y a personne qui considère que ça aille très bien dans notre tête. Donc, vous pouvez vous moquer de nous. Vous pouvez toujours nous dire que ça ne tient pas la route, notre affaire. On vous remercie, on a bien compris que c'est pour vous un scandale et une folie. Il y a un autre texte sacré, mais je n'ai pas révisé ma Bible avant ce petit moment avec toi. Je ne suis pas sûr que ce soit de saint Paul. Le Christ est quelque part décrit comme signe de contradiction. C'est-à-dire, vous ne l'aimez pas, bah, tant mieux. Tu vois, ça ne vous plaît pas, et bah, c'est pour ça qu'on y croit. C'est ça qui fait sa force, c'est ça qui fait sa vérité. Ah, vous tordez la bouche, ah, vous pincez le nez, ah, vous levez les yeux au ciel. Et bien justement. Et ça, les fondateurs de religion ont tous connu ce moment-là. Le fondateur, le prophète de l'islam, a dû fuir sa ville. Parce qu'on lui disait, le soleil, il a tapé un peu chaud sur ta tête, ça ne tient pas debout, tes affaires, d'abord on sait qui tu es, t'es pas quelqu'un d'une grande famille. Il était peut-être moins marginal que Jésus de Nazareth, mais Muhammad n'appartenait pas forcément à l'aristocratie mécquoise stricto sensu. Donc déjà, etc. Le seul fondateur de religion qui semble avoir été un prince, c'est Bouddha, mais même le Bouddha, on sent bien que les castes hindoues, etc., se disaient que c'était une religion de clochard. Donc, il y a toujours cette rupture qui est violente. Et au fond, moi, la plupart du temps, je me dis que ce qui me plaît dans Bitcoin, c'est que ça leur déplaise. Et que si ça se mettait à leur plaire, je commencerais à m'inquiéter. Tu vois, là, on est vraiment dans quelque chose, la notion de signe de contradiction, on est vraiment dans quelque chose qui est une religion. Beaucoup de gens, surtout les contemporains qui ont de la religion une vision ex post, en jugeant ce qui s'est passé dans un passé que d'ailleurs ils connaissent mal, ont tendance à dire les religions, ah, bah, on sait ce que c'est, elles ont toujours été là pour soutenir le pouvoir. Les rois d'autrefois auraient probablement eu une vision plus nuancée des choses. Il y a dans les religions, on y reviendra tout à l'heure, une dimension d'acide qui est assez violente. Alors j'en viens à scandale pour les juifs, folie pour les grecs. C'est incompréhensible. On nous dit le bitcoin n'est pas une vraie monnaie. Comme on aurait dit, Jésus de Nazareth ne peut pas être le logos de Dieu. Ou Mohammed ne peut pas être un prophète. On nous dit, vous n'êtes pas une vraie monnaie, vous ne ressemblez pas aux précédentes. Et que répondent les bitcoiners? Ils répondent en disant, it's not just a money. C'est plus qu'une monnaie. C'est une métamonnaie. C'est autre chose. C'est pas seulement la monnaie de l'Internet, qui serait simplement de dire, bon, on a créé un nouveau pays, comme quand on n'était plus en Angleterre, on a cessé d'être en pound et on s'est mis en dollars. Ça pourrait être une description du Bitcoin. Quand on dit c'est plus qu'une monnaie, c'est not just a money, ça, pour répondre à la critique, dire c'est pas une vraie monnaie, on voit bien qu'on change, on change de domaine et de sujet, et qu'on n'est plus dans la politique monétaire, on est vraiment dans une question un peu religieuse. Alors, qui est le vrai dieu de Bitcoin? C'est pas tout de dire que Bitcoin est une religion. Il ressemble à quoi son dieu? Là, je vais pas forcément me faire que des amis. Je pense que Bitcoin est une religion et je ne sais pas au fond de moi-même ce qu'est son Dieu. Tu vas me dire, si tu sais pas, pourquoi tu parles? J'hésite, je tourne en rond dans ma tête. Certainement, c'est un Dieu impossible à se représenter, comme le Dieu des monothéistes stricts. C'est-à-dire que on n'a pas d'image de Satoshi et nos représentations de Bitcoin comme des pièces rondes sont de l'infantilisme païen. Comme les premiers chrétiens qui représentaient Jésus comme un Hercule, parce que comme un Apollon. Ça prouve qu'on est vraiment encore dans l'âge infantile de l'ère Bitcoin. C'est impossible de représenter Satoshi, sauf par l'imposteur involontaire Dorian Satoshi. C'est impossible de représenter Bitcoin, sauf parce que justement il n'est pas du tout, c'est-à-dire un rond de doré métallique. Et d'où il y a une sorte de résolution en forme de tension. On le représente un peu comme le font nos amis musulmans qui n'ont pas le droit de figurer des êtres animés alors qu'ils écrivent, 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 parce que c'est la seule chose qui est permis. Moi, j'avais une révélation en visitant la maison de Victor Hugo, un autre prophète, à Guernsey, sur l'île anglo-normande de Guernsey. Dans la cheminée qu'il avait bricolée, il y avait deux statues de Saint Paul et de Saint Jean. Et la statue de Saint Jean, les mains tournées vers le ciel, la statue de Saint Paul, le regard tourné non pas vers la terre mais vers son livre, et en dessous, Hugo avait écrit lui-même en latin Ad Caelum et In Libro. Et je me dis, qu'est-ce que Hugo, qui est un prophète à sa façon, veut représenter? C'est que le Dieu est à la fois dans le livre que tient Saint Paul et dans le ciel que montre Saint Jean. Et finalement, ce ad caelum et in libro, ça peut être quelque part in the cloud et on the blockchain. Tu vois, il y a une sorte de tension entre ce qu'on peut écrire et ce qu'on ne peut pas écrire, et qui fait qu'en fait, c'est un peu là, un peu ici, un peu là, et partout à la fois, mais qui a une sorte d'impossibilité de dire exactement ce qu'est le dieu derrière Bitcoin. Alors, s'il y a une image, s'il y a une figure religieuse qui me paraît évidemment s'imposer pour Bitcoin, c'est celle de Prométhée. C'est-à-dire pas tout à fait un dieu. D'ailleurs, les dieux vont lui faire payer cher. C'est Prométhée, et c'est un titan qui est censé avoir volé le feu que les dieux seuls avaient pour en offrir la recette gratis aux hommes. Et bien des philosophes, et même après des révolutionnaires, Marx avait une certaine tendresse pour Prométhée, le héros qui, de façon violente, sournoise, rusée et illégale, s'empare de quelque chose qui ne lui appartenait pas et le redescend du palais des dieux pour le descendre vers les maisons des hommes. Alors, comme chacun sait, Prométhée va finir enchaîné à je ne sais quel mont du Caucase ou du Tatare, avec un, selon les versions, un aigle ou un vautour qui lui bouffe le foie pour l'éternité, parce que Jupiter, Zeus, n'a pas du tout apprécié qu'on lui vole le feu. Donc c'est quand on me dit, mais pourquoi est-ce qu'il est resté anonyme, Satoshi? Je dis, parce que si, comme Prométhée, quoi, si on avait pu le trouver, il aurait passé un très sale quart d'heure. Je pense que le dieu de Bitcoin, c'est quand même quelque part Prométhée, c'est-à-dire la volonté de certains humains de ne pas accepter que certaines choses soient réservées à des dieux, mais la volonté de transformer l'humanité par la technique et par le courage en quelque chose qui va plus loin. C'est-à-dire que clairement, il y a une humanité sans le feu et une humanité avec le feu. Après tout, ton arrière-arrière-arrière-grand-mère qui connaissait le feu et mon arrière-arrière-grand-père qui ne le connaissait pas pouvaient bien s'accoupler. C'était la même humanité. Mais néanmoins, une humanité qui a le feu est une méta-humanité. Et je pense que voilà, l'irruption des crypto-monnaies s'inscrit dans un ce qu'on va décrire comme un impetus technologique, un peu prométhéen, et dans un bouillonnement moral. Et que pour moi, si je dois en désigner un, ce serait celui-là. Et puis, après, il y a quelque chose de pessimiste pour moi qui dit, oui, mais il y en a un autre mauvais, c'est le veau d'or. Le veau d'or, il est dans la Bible, il est dans le Coran, je crois aussi. On sait que pendant que Moïse est sur la montagne, en train de recevoir la loi d'un dieu qu'on ne voit même pas, que peut-être lui seul a vu, au moment où il redescend vers les humains avec sa loi morale et d'un dieu qu'on ne voit pas, qu'est-ce qu'ils ont fait, les copains? Eh ben, ils ont pris tout l'or qu'ils avaient, ils en ont fait un dieu et ils l'adorent. Alors Moïse, ça fait une grosse colère, mais ça va rester dans la mythologie, la culture un peu universelle. Il y a cette air dans le Faust de Gounod où le diable lui-même chante « Le veau d'or est toujours debout ». Et c'est vrai. Et régulièrement, on voit, même la presse financière s'en amuse, parle du veau d'or. Et parfois, on a vu des affiches des partis révolutionnaires anticapitalistes parler du veau d'or. C'est-à-dire que quelque part, je me rappelle une chanson des années 20 du siècle précédent qui disait « Le vrai dieu de l'affaire, ça n'est pas un mystère, c'est l'argent, l'argent comme un dieu ». Dans Bitcoin, il y a une tension. On va te dire « Bitcoin n'a pas été créé pour te rendre riche, mais pour te rendre libre ». Alors, te rendre libre, c'est Prométhéen, te rendre riche, c'est le veau d'or. Or, pour le moment, on est quelques-uns à avoir acheté du Bitcoin à 50 centimes pour les initiés, à 1000 euros pour les malins, à 10 000 euros pour les… etc. et à être en plus-value. Et cette plus-value, elle dilate ta rate et elle change un peu ton âme. On le voit avec des problèmes comme le KYC, l'anonymat. Vouloir garder un petit trésor de monnaie anonyme pour pouvoir un jour ou l'autre faire ce qu'on veut sans les autorités, c'est une chose. Ceux qui vont détenir aujourd'hui des millions et qui voudront s'acheter un yacht ou une maison auront moins envie d'anonymat et plus envie de compliance. Donc, quelque part, il y a cette apparition du diable qui apparaît lui-même au prophète. Le diable apparaît à Jésus au désert. Elle lui dit, bon, bah, si tu acceptes la compliance, si tu acceptes de me reconnaître, moi, le prince de ce monde, en échange, je te donnerai toutes les richesses de la terre. Il y a un film, d'ailleurs, canadien, qui montre ça très bien. C'est Jésus de Montréal. Qui est un pur chef-d'œuvre, que tout le monde doit avoir vu, ou quand le héros est mort, l'avocat d'affaires, qu'on reconnaît tout de suite, on voit tout de suite qui il incarne, celui-là vient voir les amis du héros mort et lui disent « bon, bah, signez un contrat avec moi et vous allez voir tous les droits qu'on va faire ». Bitcoin en est peut-être, d'un point de vue religieux, à ce moment de la tentation. On va voir ensuite où il en est politiquement. Mais il est peut-être aujourd'hui en train d'échapper à ce que j'appelais l'impetus philosophique, prométhéen, pardon, pour être tout classiquement au pied du veau d'or.
C'est intéressant parce que je pense que souvent la tension entre deux choses crée de l'énergie, crée quelque chose. C'est que sans tension, il n'y a pas de mouvement, même un muscle humain, s'il n'y a pas de tension, il ne peut pas faire de déplacement. Donc c'est intéressant qu'il y ait, d'avoir ces deux côtés. Donc ce côté plus prométhéen qui dit ben, on va transformer l'humanité pour lui permettre d'accéder finalement presque à la divinité, puisque en donnant le feu, les humains s'élèvent. Et de l'autre côté, il y a un peu le diable ou le veau d'or qui serait cette adoration de l'argent pour l'argent, qui fait perdre alors cette vertu transformative. C'est bien qu'il y ait cette tension entre les deux. J'ajouterais peut-être un truc, tu as dit, quel est le dieu de Bitcoin? C'est quelque chose qui est impossible à se représenter. Et puis tu présentes ces deux visions-là. Moi, ce que je pense aussi, c'est que le dieu de Bitcoin, ce qui serait un peu l'ultima ratio de Bitcoin, dont on a parlé, c'est, d'après moi, c'est l'énergie. Et en fait, je pense que ce que Bitcoin introduit pour l'humanité, c'est le Dieu, ce serait l'énergie. C'est indescriptible, et pourtant, c'est ce qui régit tout le système. C'est-à-dire que le Bitcoin est intrinsèquement connecté à la thermodynamique, et au même titre qu'un individu est connecté à ce qu'il peut consommer, à ce qu'il peut. Tout le monde a besoin d'énergie. Alors, donc, j'ai cette espèce de relation que je trouve intéressante aussi entre l'énergie et Bitcoin.
Tu as raison, et je voulais en parler, j'ai zappé parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais puisque tu y reviens, il y a quelque chose d'important dans la culture chrétienne, c'est la consécration des espèces, le pain et le vin, qui se transforment en corps et sang du Christ. Et on s'est disputé là-dessus, les catholiques parlent de transsubstantiation, les luthériens de consubstantiation, les calvinistes de présence réelle, pneumatique, qu'importe. Bitcoin, d'une certaine façon, est une religion de transsubstantiation. Il prend non pas du pain et du vin, mais de la puissance de calcul, de l'énergie, et il le transforme en quelque chose de précieux. Et là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, ça m'amène à une autre question que je voulais éluder, donc je vais aller assez rapidement, qui est, parce qu'elle n'est pas directement, après avoir dit quel est le vrai Dieu, c'est quelle serait la vraie philosophie de Bitcoin. Et là, juste très rapidement, je dirais, c'est pas forcément le matérialisme d'Aristote, même si, on vient de le dire, il y a bien une matérialité de l'espace disponible, de la puissance de calcul, et diront les critiques, des tonnes de CO2, malgré tout, la vraie philosophie de Bitcoin serait plutôt une sorte d'idéalisme platonisant. Et je me souviens avoir écrit sur mon blog, dans un de mes billets, que Bitcoin était peut-être un métal mental. Je disais, après tout, il y a des métaux mous, il y a des métaux liquides, comme le mercure. Eh bien, Bitcoin serait un métal mental dont le pôle magnétique serait dans le ciel, que l'on ne touche pas de la main, mais qui est réellement présent dans la pensée. Et j'ajoutais, non pas dans la pensée d'une personne isolée, mais d'une communauté dont il mesure et exprime la richesse. À nouveau, une religion n'est pas une affaire personnelle. Si tu es le seul à donner de la valeur à Bitcoin, il n'en a pas. Bitcoin ne peut valoir 30 000 boules que si toi et moi, au minimum, on le croit. On dit toujours, Bitcoin existera tant qu'il y aura un ordinateur qui tournera. Non, Bitcoin existera tant qu'il y aura un ordinateur qui tournera et deux personnes qui seront d'accord pour lui attribuer sa valeur. Donc voilà, c'est ce que j'avais résumé dans cette formule. Un métal mental dont le pôle magnétique est dans le ciel, que l'on ne touche pas de la main, mais qui est réellement présent dans la pensée d'une communauté dont il mesure la richesse. Bon, bravo. Je crois qu'on va être pris par le temps. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement et avertissement de façon peut-être plus concrète? Alors, je l'ai déjà effleuré, j'ai dit pour beaucoup de nos contemporains, les religions, ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir conforté le pouvoir politique. Et ça, c'est souvent une erreur de culture historique. Les religions ont parfois pu conforter certains États, le sabre et le goupillon. En réalité, elles en ont détruit et rongé tout autant. Je ne vais pas te faire, c'est une spécialité universitaire dans le Nouveau Monde, hein, Rise and Fall of the Roman Empire, et pourquoi, est-ce que ce ne serait pas ces salauds de chrétiens qui auraient détruit l'Empire romain? J'en sais rien, mais qu'est-ce que font les religions et que fait Bitcoin aussi? Bitcoin change absolument tout, c'est ce que dit Jacques Dorsey, un peu comme certains ont dit, les béatitudes changent absolument tout. Les béatitudes, c'est ce discours du Christ sur la montagne, en 8 points, bienheureux les pauvres, car, etc. Personne avant lui n'avait dit bienheureux les pauvres. Et en fait, quelque part, rien ne t'empêcherait de penser, des fois, de complètement idiot pour penser ça. Bienheureux les doux, bienheureux les faibles, bienheureux les pauvres. Enfin, si vraiment on croit ça, mais il n'y a plus d'empire romain. Et Bitcoin change aussi absolument tout. Ce pourquoi j'en reviens au signe de contradiction que je donnais tout à l'heure. Il soulève des critiques qui sont, d'où elles sont énoncées, parfaitement justifiées. Il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'État. C'est en ce sens, il y a un messianisme de Bitcoin qui est de dire, mais ça change absolument tout, on va s'en passer. Bon. Alors après, Bitcoin est peut-être ce que j'appellerais une monnaie de la séparation avec l'État. Beaucoup de gens disent, bah, de même qu'on a séparé l'Église de l'État, il faudrait séparer la finance de l'État. Vaste question, je ne veux pas me prononcer là-dessus, mais il y a une forme de séparation avec l'État, certainement dans un contexte de la baisse de la foi républicaine en France et d'une manière générale dans le monde de la confiance en nos institutions. On voit bien, il y a des dizaines d'indicateurs qui montrent que les gens n'ont pas pour la parole d'un ministre ou la personne d'un président le respect qu'avaient nos parents ou nos grands-parents. Je ne veux pas faire allusion à des faits divers récents, mais il est clair que l'autorité de nos dirigeants n'est pas celle d'Auguste, de Charlemagne, de Louis XIV et de Napoléon. Elle ressemble beaucoup plus au manque tragique d'autorité du pauvre Louis XVI.
Ouais.
Et que ce n'est pas une question de personne. Trop de dirigeants contemporains souffrent de cette diminutio capitis pour que ce soit les reproches qu'on peut faire à tel ou tel d'être trop jeune, d'être trop énervé, d'être trop etc. C'est pas ça. C'est la société ne permet plus à une personnalité de se poser comme ça, personnalité transcendante à l'époque des réseaux sociaux. Enfin, on va pas développer, tout le monde sait ça par cœur. Il y a quand même une baisse de la confiance dans ce qu'on appelle nos institutions. Alors, Bitcoin face à ça, moi j'ai souvent dit qu'il apparaît comme un élément de souveraineté. Alors certes, d'un État non territorial, c'est ce que disait le Christ, mon royaume n'est pas de ce monde. Je vais citer plutôt un économiste, David Goodhart, un Anglais je crois, qui parle des « anywhere ». Il dit « il y a les gens qui sont de somewhere, et puis les gens qui sont de nowhere, et les gens qui sont anywhere ». Bon, les « anywhere », c'est ceux qui sont contents du moment qu'ils sont avec leur ordinateur. Avec mon ami Adli, dans un de nos livres, on avait inventé l'expression latine « in silico ». On dit toujours in vivo, in vitro, et pour dire l'ordinateur, on avait dit in silico. Ben, des gens qui vivent de plus en plus in silico, ce que tes parents te reprochent, peut-être ta femme, tu vas sortir de ta machine un petit peu et aller te promener, ça c'est au moment où vraiment tu vis trop in silico, vivent aussi anywhere, parce que finalement, un ordinateur, ça pèse entre 920 grammes pour le 12 pouces de Mac et 3 kilos quand vraiment tu as du lourd, tu peux le transporter partout, voilà. Bitcoin est une monnaie pour ça, alors que la première chose qu'on te demande à la banque, c'est où tu habites, voilà. Donc, c'est toujours la même chose. Les gens te disent, ça peut pas être une monnaie parce qu'une monnaie, c'est souveraine. Je dis, c'est si, donc c'est une monnaie d'une nouvelle souveraineté. Je pense qu'il y a une nouvelle souveraineté qui se crée sur la base de cette foi religieuse. Je pense que c'est une souveraineté alternative et spirituelle. Alors ça, on en a déjà parlé, je crois, peut-être la dernière fois, ou alors toi et moi en face à face, c'est les deux glaives. Il y a cette scène au moment où le Christ va être arrêté, où un de ses serviteurs brandit deux glaives et où le Christ dit « c'est assez ». Bon, alors, 1000 ans plus tard, au Moyen-Âge, les rois et les papes ont inventé, sur la base de cette anecdote, en tricotant pas mal à mon avis, qu'il y avait deux glaives, le glaive temporel et le glaive spirituel. Ça veut dire que le roi est là pour faire marcher les choses dans la rue et que le pape est là pour gérer tes relations dans le ciel. Mine de rien, je trouve ça plutôt raisonnable. Quand le pape s'occupe des choses temporelles, c'est généralement catastrophique. Aujourd'hui, on est dans une époque où l'État s'occupe des choses spirituelles. Par exemple, l'État fait des campagnes d'affichage pour t'inciter à la tolérance. Bah, il rentre dans ton âme, c'est pas vraiment forcément la définition classique de la politique. Alors, Bitcoin serait une souveraineté de nature spirituelle, c'est-à-dire que tu y crois. Alors, ça plaît pas à l'État. Mais il y a tout un tas d'États qui ont dit, par exemple, que ton obédience au pape pouvait les énerver. D'une manière générale, à peu près tous les tyrans ont détesté le catholicisme, non pas parce qu'il était religieux, mais parce qu'il était romain. C'est-à-dire qu'il y avait quelque part ailleurs un centre de commandement qui leur échappait. Et c'est le cas face à Bitcoin. Il est clair que Bitcoin, le centre de commandement, leur échappe. Est-ce que ces deux souverainetés sont forcément rivales? Est-ce qu'en étant bitcoiner, tu es forcément dans une rivalité? Certains pensent que les bitcoins doivent remplacer les monnaies souveraines. Moi, je dirais que c'est plutôt un peu séparatiste, un peu alternatif, et c'est un peu séparatiste. Le séparatisme, c'est pas « je vais vous combattre », c'est « vous faites ce que vous voulez dans votre coin, je m'en fiche ». Et quelque part, c'est un peu l'attitude qu'on peut prêter, que les rois pouvaient prêter aux chrétiens, que les empereurs romains pouvaient prêter aux chrétiens. C'est bon, d'accord, vous dites que vous respectez César, mais vous voulez pas lui sacrifier. Et puis, en fait, vous, au fond de vous-même, on sent bien que vous vous en fichez. Et bah oui, un peu. Et donc, c'est ce mot qui réapparaît actuellement, le séparatisme. Bon, moi, ça me fait rire parce que j'appartiens à une génération plus ancienne. Je me dis que ça me fait penser un peu à certaines chansons de Brassens. Les gens qui refusent de penser comme les autres, on ne les aime pas. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose de ça. On est redescendu d'une marche par rapport au signe de contradiction qu'est Bitcoin. On en est simplement à l'attitude de day to day du Bitcoiner qui est pas dans l'Élysée, dans l'empirée philosophique et religieuse, mais qui aura des pâquerettes et qui aura des pâquerettes. Considère que bon, bah, l'État, il est là, mais il y adhère moins, et il dispose, avec Bitcoin, d'un élément sur lequel il va bidouiller d'abord des transactions, ensuite peut-être une identité, ensuite peut-être des échanges décentralisés, peut-être des tonnes de choses qui ne sont pas forcément rivales, mais qui sont séparatistes. Alors, dernière chose, Bitcoin est libre, et ça, de même que tu peux demander le baptême, au fond, sans l'autorisation du souverain, ce qui fait bien enrager certains pays totalitaires, ben tu peux devenir bitcoiner sans demander vraiment l'avis des autorités. Si tu vas sur une plateforme, tu es obligé de donner ta carte d'identité, mais si tu télécharges un copé sur ton téléphone et que tu demandes à un pote de te filer 10 euros de bitcoin, personne ne le saura, sauf le pote. Donc, en fait, tu reçois bitcoin un peu comme tu reçois le baptême, de l'un à l'autre, et sans que l'appareil d'État le sache. Mine de rien, son adoption se fait sans coercition, alors que plus rien de ce que proposent les gouvernements ne tiendrait une seule journée sans coercition. Donc c'est vraiment, il y souffle un vent de liberté. Il y a même, alors j'ai beaucoup parlé du christianisme dans son acception catholique, c'est mon côté français, même si à titre personnel j'ai des ancêtres protestants, il y a une dimension protestante dans Bitcoin qui est la dimension de libre examen. Trust no one. Le libre examen, c'est quoi que disent le pape, les cardinaux et les curés, prenez la Bible et lisez-la par vous-même. Et c'est un conseil qu'on donne assez souvent, c'est mais reprenez donc le papier de Satoshi. Moi, les gens m'appellent en disant, est-ce que vous pouvez nous expliquer le Bitcoin ? J'ai dit, écoutez, lisez le papier de Satoshi pendant 8 jours et rappelez-moi, on en discutera ensemble. Mais tu es assez, il n'y a pas de vrai magistère. J'en reviens sur le rapport avec les États, je dis, c'est pas rival. Parfois, j'ai un peu peur des États, je me dis, ils peuvent nous enquiquiner, et parfois, je me dis, les États ne devraient même pas essayer. Parce que si on regarde ce que dit la Bible, tu as Moïse face à Pharaon. Et l'État, c'est Pharaon. Et il brandit des menaces, ses chars et ses guerriers, pendant que Moïse manie des prodiges, les grenouilles, la tempête, etc. Mais en fait, le problème n'est pas tellement dans l'assaut verbal entre Moïse et le Pharaon, que dans ce qu'ils invoquent chacun. Moïse invoque quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas décrire, ce qu'on a vu de Bitcoin. Et Pharaon, finalement, il invoque des dieux en or qui sont dans des temples. Et je me dis, les banques centrales, c'est des temples avec de l'or dedans, avec des divinités auxquelles on ne croit plus vraiment et qui ont peur de ce nouveau dieu, de cette nouvelle devise absurde, incompréhensible, complètement contraire à toutes leurs valeurs. Et quelque part, Bitcoin est du côté de Moïse, ce qui n'est pas forcément rassurant pour Pharaon. Et puis, je veux terminer sur quelque chose j'ai d'un peu triste. Hein. À chaque fois, j'ai une pensée contradictoire. De même que j'ai dit qu'on passe peut-être d'un Bitcoin prométhéen à un Bitcoin un peu sous forme de vaudeur. En vocabulaire religieux, on est peut-être dans un moment constantinien. Ce qu'on appelle moment constantinien, dans l'histoire de l'Église de la haute époque, c'est le moment où l'empereur Constantin décide que non seulement on va plus mettre les chrétiens dans les jeux du cirque ou au feu ou au lion, mais qu'il se convertit, mollement d'ailleurs, à la veille de sa mort, et puis quelques décennies plus tard, l'empire sera chrétien. Alors, est-ce que le christianisme, c'est une victoire pour lui d'avoir converti l'empereur? Certains chrétiens vont le penser, ils vont dire désormais l'empereur est l'image de Dieu, l'empire romain c'est l'image du ciel, les chrétiens sont les citoyens de la cité parfaite parce qu'elle est chrétienne. Certains chrétiens le penseront, d'autres diront regardez tout ce qu'on a perdu. Même pour savoir si Jésus, si le Saint-Esprit procède du Père et du Fils ou du Père par le Fils, il faut demander l'avis de l'empereur. Et le Basileus à Constantinople dira qu'il dépend, qu'il procède du Père par le Fils, pendant que Charlemagne, avec sa chapelle, dira que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Donc, on a gagné, on a perdu. Ce que je te disais tout à l'heure sur les sentiments qui passent au sein des bitcoiners eux-mêmes. Est-ce que, avec un bitcoin à 1 million, on serait tous toujours aussi anarchistes? Il est permis d'en douter. Donc, ce passage de Prométhée au Vaudeur, c'est peut-être pour moi aussi simplement, dans nos rapports avec l'État, un moment constantinien. Il y a beaucoup de joie pour le moment pour ce qui se passe au Salvador, en Amérique du Sud. J'attends quelques jours avant de me forger ma propre idée.
C'est intéressant ce que tu dis. En fait, je me demande si cette question de un petit peu de moment constantinien ou et même de Vaudor, Prométhée, etc. Cette espèce de tension, je me demande si en fait c'est pas une question qui est constamment présente sous différentes formes. C'est-à-dire que même dans notre esprit, des fois on va devenir l'empereur, des fois on va devenir pharaon, des fois on va être Moïse, et puis cette dualité est jamais tout à fait résolue et continue à passer d'un bord à l'autre. Au fur et à mesure du temps, finalement. Puis on est tout le temps dans ce moment constantinien et au-delà et parfois avant, quoi. C'est un peu comme ça ma sensation en ce moment.
Certainement. C'est une tension. C'est une tension. Après, je pense que beaucoup de gens qui m'auront écouté jusqu'au bout, je les salue et je les en remercie, peuvent penser que je tricote un peu, parfois dans mon chapeau. C'est possible parce qu'on est sur des domaines où il n'y a pas vraiment de balise, hein, où chacun aborde les choses avec sa culture, sa sensibilité. Mais je pense qu'il y a des questions qu'on doit se poser. Et si on croit en Bitcoin, c'est pas simplement parce qu'il monte.
Tout à fait d'accord. Et puis c'est exactement pour ça que personnellement, que moi je suis intéressé au Bitcoin, c'est parce que enfin, je pense que si quelqu'un écoutait jusqu'au bout ce qu'on a dit, c'est qu'on voit bien que ça dépasse une question de prix. Ça vient chercher, je pense, des questions fondamentales qui sont propres à des questions humaines, finalement, puis que dans l'histoire, certains ont apporté des réponses comme, je sais pas, Jésus, Moïse, etc., mais qui, finalement, ces questions reviennent sous d'autres formes plus tard dans l'histoire, parce que c'est je pense, propre à l'humain, en fait, ces questionnements-là.
Alors, j'ai pas la culture religieuse et philosophique suffisante pour aborder Bitcoin à travers les religions asiatiques, en particulier le bouddhisme. Il est clair que Et quelque chose qui me dégoûte toujours, c'est quand les gens, pour dire du mal de Bitcoin, font le petit geste obscène avec le doigt, tu fais comme ça, là, derrière, on peut pas le toucher. D'abord, c'est ridicule parce que les espèces ne représentent qu'un millième de la masse monétaire dans les devises fiat. Mais que Bitcoin soit intangible, parfois, j'y réponds en disant si, avec votre troisième main, votre téléphone, c'est l'objet qui est presque maintenant organique, c'est-à-dire que si tu n'as pas ton téléphone, tu es comme amputé. Donc, il est numériquement tangible. Mais en fait, il faudra aller plus loin dans la critique en disant justement, c'est ça qui le rend infiniment précieux. Mais ça, je pense que la culture bouddhiste qui dit non pas qu'au début était le verbe, mais qu'au début était le vide, une réflexion sur ce qu'est le nirvana, sur l'absence de toute matérialité, ferait qu'au contraire, peut-être que la critique bouddhiste serait de dire mais il est horriblement tangible, il pue le CO2, il pue le silicium, il pue l'électricité, il n'est pas encore assez abstrait. Mais je pense que là, il y aura un autre angle religieux qui sera intéressant sur la vacuité, le vide, etc. On est resté dans ce qui est probablement la culture commune de tous ceux qui écouteront ce podcast.
Ouais, effectivement. Mais c'est intéressant parce que moi, personnellement, je suis beaucoup intéressé par le bouddhisme, le taoïsme. Personnellement, je médite depuis des années. Et ce qu'on retrouve dans les textes bouddhistes, zen, taoïstes, je trouve que ça se marie extrêmement bien avec justement le bitcoin. En tout cas, présentement dans ma vie, en ce moment, ma compréhension de la spiritualité et le bitcoin, il y a comme une synergie qui se crée, qui apparaît. Je ne peux pas vraiment verbaliser parce que c'est un peu le propre de cette
philosophie-là.
Le moment où on sait verbaliser, ça change la valeur. Mais en tout cas, pour ceux qui sont intéressés, le taoïsme, c'est intéressant à regarder, à aller explorer.
Une page de publicité maintenant. Mon propre blog, que j'invite mes auditeurs à venir voir, s'appelle La Voix, V-O-I-E, La Voix du Bitcoin. Et donc, il y a une allusion évidente. Quelque part dans de Bitcoin, on pourrait dire ce qu'on dit du Tao, c'est-à-dire que le nom qu'on lui donne n'est pas le nom qui le nomme vraiment. Mais voilà, il faudrait faire avec quelqu'un de plus compétent que moi, parce que le risque, quand on connaît les choses de façon trop superficielle, c'est de patauger dans le New Age en mélangeant le Tao et le Zen, qui n'ont pas forcément que des points de contact, qui ont aussi des points de divergence. On avait parlé aussi d'une approche de Bitcoin par les Védas, par exemple. Il y a quelque chose de troublant dans dans certains rites, dans certaines déclarations hindoues. Je pense qu'il y a un moment où Vishnu, je crois, mais j'en suis pas sûr, dit qu'il est à la fois l'herbe du sacrifice et le sacrificateur et le sacrifice lui-même. Comme Bitcoin est à la fois la monnaie, le processeur, etc. Je pense que, et on va peut-être achever là, Bitcoin est quelque chose de tellement compliqué que tout outil intellectuel complexe permet d'en extraire quelque chose. Voilà.
Ou de casser l'outil. Ouais, c'est marrant parce que je pense que tu casses l'outil et comme tu te rends compte que ton outil s'est cassé, ça te fait que tu reviens avec des meilleurs outils pour recommencer l'action, puis tu recasses l'outil. Puis je trouve que ça donne super fort cette dimension prométhéenne dans le sens où tu as beau essayer de comprendre, tu comprends pas, et que tu deviens de plus en plus excellent parce que ça marche jamais, et que tu recommences, recommences. Puis c'est pour ça que je dis, ça fait 4 ans que je m'intéresse, puis j'ai pas fait le tour. Donc c'est cool d'avoir cette espèce d'outil de cassage d'outils en fait. Bah écoute, merci beaucoup Jacques. Franchement, c'était. Je pensais que j'avais des choses, mais de nouveau, j'ai été bluffé, quoi. Il y a vraiment des parallèles qui sont très très puissants. Je pense que c'est. En tout cas, moi, ça m'a donné des outils de réflexion pour le futur. Je suis vraiment très content d'avoir appris tout ça là. C'était vraiment super pour moi. Merci beaucoup.
Ne me fais pas rougir par pudeur, parce que en fait, la vraie couleur du Bitcoin, c'est l'orange, c'est-à-dire celle qui mélange le sang et l'or.
Merci. Merci.
Si ça t'a plu, abonne-toi à l'infolettre sur parlonsbitcoin.com pour être tenu au courant des prochaines sorties. Salut.